I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenue, bonsoir. Bienvenue dans ce 12e épisode de C'est ça qu'on aime, l'émission qui vous fait découvrir des trucs fun, cool, jazz. J'ai écrit jazz, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de le partager avec vous quand même. J'espère que tout le monde se porte à merveille et que vous avez tous vu la vidéo des chèvres qui font une pyjama party, parce que si vous ne l'avez pas vu, votre journée est un peu moins bien que la nôtre. Sinon, je vous conseille d'aller sur la page Facebook de Mademoiselle, elle y est et c'est trop cool. On est en live pendant une heure à peu près sur les internets et notamment via YouTube, Facebook et Radiomad, notre web radio. Vous pouvez commenter, réagir sur le chat YouTube, sur les commentaires Facebook et sur Twitter avec le hashtag Mad en live. Ce soir, je suis accompagnée d'Amélie. Salut.
Bonsoir.
Amélie, qui est rédactrice déco chez Mademoiselle.
Tout à fait.
Et qui a clairement fait la guerre, puisque ça fait 1000 ans qu'elle est chez Mademoiselle. Elle a tout connu.
Oui. Ça fait la guerre, exactement.
Bienvenue, merci d'être là, ça me fait très plaisir de te recevoir.
Merci de m'avoir invitée, c'est cool.
Et je suis aussi avec Morgane, qui est une lectrice que vous avez peut-être vue dans le vlog, si vous suivez les vlogs, puisqu'elle nous a ramené des cookies vegan la semaine dernière et ils étaient formidables. Et Clémence a même dit, c'est ma lectrice préférée. J'espère que vous êtes toutes et tous jaloux.
Ça a été coupé au montage et c'est très dommage, hein. J'aurais aimé que le monde entier sache, mais bon, tant pis.
C'est pas, maintenant on le dit au monde entier, voilà. Oui. Voilà. La vérité rétablie. Bienvenue à toutes les deux. Vous allez nous présenter vos kiffs, vos passions de longue date, toutes les deux. Il me semble que ça fait toutes les deux longtemps que vous kiffez ce que vous kiffez ce soir. L'un a rapport avec le cinéma, l'autre avec les bêtes. Et j'ai demandé au chat qui commence et on m'a répondu le cinéma.
Ah, donc c'est moi.
Ah, c'est toi.
Oh, voilà.
Alors.
La pression.
Ça va aller, t'inquiète pas. On est à l'aise, tout va bien. Donc, tu vas nous parler de kino.
C'est ça.
Alors, pour les gens qui ont fait allemand, ils sont là, bah oui, cinéma, forcément.
Voilà, tout est dit, on peut terminer là. Voilà,
voilà, c'est tout.
J'aime le cinéma. C'était
tout. Il y a des gens qui ont fait espagnol ici, voilà.
Oui,
moi, par exemple.
Voilà, comme tout le monde, en fait, c'est
ouais, voilà, ouais.
Donc, moi, je ne connaissais pas la ref. Mais en fait, kino, c'est un mouvement international pour l'amour du cinéma. Non, en vrai, enfin, si, c'est ça.
Si,
mais
c'est
pour
un peu
résumer,
ça.
C'est un réseau, pardon. Ouh, je touche les fils, voilà.
T'inquiète.
C'est un réseau d'associations de passionnés de cinéma qui se retrouvent pour réaliser des courts-métrages ensemble. Voilà.
Et donc, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que tu rentres dans ce genre d'assaut?
Alors, il y a des rituels très, très particuliers. Il faut sacrifier des animaux. C'est quand même très très dur, mais après ça vaut le coup, vraiment, je vous le dis.
Comment ça s'est passé pour toi?
Alors en fait, bon, ce qu'il faut dire, donc, c'est un réseau d'associations, mais elles ne fonctionnent pas toutes de la même manière. Chacune a son fonctionnement propre, donc moi je vais vous parler de Kino Session à Bordeaux, parce que c'est celle que je connais le plus, que j'ai pratiquée le plus longtemps. Donc moi j'ai commencé vraiment assez timidement, voilà. Mes amies connaissaient déjà Kino Session depuis quelques mois et elles devaient faire un court-métrage. Voilà, elles s'étaient présentées pour faire un court-métrage et elles avaient besoin de figurants, de zombies. Ah. Voilà, donc j'ai commencé
tu
en tant que
zombie.
Voilà, et c'était bien chouette. Voilà, même si c'était un samedi matin à 7h, ça valait le coup. Voilà, parce que au niveau du maquillage, c'était beaucoup plus...
C'était long.
Bah, non, c'était pas mal, comme on était déjà tous cernés avec une tête défraîchie. Donc c'était parfait, très bon timing. Et ensuite, voilà, j'ai continué à être figurante dans le film des copines, voilà. Et donc c'est resté comme ça, hyper. J'ai vu ça de loin, vraiment, ça me faisait un peu peur. Et puis au bout d'un moment, j'ai voulu participer à un kino dating. Alors qu'est-ce qu'un kino dating? C'est un moment où donc il y a un thème et une contrainte pour réaliser son court métrage. Et le kino dating, ça permet aux réalisateurs de présenter leur projet de court métrage. Voilà, il dit le thème c'est on va reprendre un exemple qui est raclette, voilà.
Parfait.
Thème raclette, contrainte, comédie musicale, voilà. Et les réalisateurs doivent faire un film avec ce thème et cette contrainte.
Ok.
Donc ils se présentent au kino dating en disant bon, voilà, c'est ça mon film et j'ai besoin de tant d'acteurs pour jouer tel ou tel rôle. J'ai besoin d'un preneur de son, j'ai besoin d'un garage pour tourner, j'ai besoin, enfin voilà. Ils expriment un petit peu tous leurs besoins. Donc il y a les réalisateurs qui passent, les techniciens, les acteurs, enfin voilà. Donc tout le monde se rencontre et c'est un chouette moment, on boit des bières, c'est chouette, on fait, voilà, on fait des rencontres. Et donc je me suis présentée à un kino dating, voilà, j'ai pris mon courage à deux mains, je me suis présentée devant tout le monde en disant que j'étais comédienne, ce qui n'est pas du tout vrai. Enfin, j'avais juste joué
un comédienne amateur.
Voilà, exactement. Et c'est en fait c'est ça qui est bien, c'est que ben voilà, je me suis présentée en tant que comédienne et j'ai dit bon voilà, ma petite carrière se résume à être zombie dans un court-métrage et à faire un couple comme ça caché derrière dans la foule. Voilà, mais n'empêche que ça a servi, les gens m'ont accepté. Voilà, et donc j'ai pu tourner dans d'autres films comme ça avec des gens que je connaissais pas d'avant, enfin pas mes copines. Et puis voilà, après il y avait les sessions aussi où chacun présente son court-métrage. Voilà, c'est une grande soirée et en général il y a 15-20 court-métrages. Donc ils font tous 5 minutes maximum. Donc c'est très long comme soirée, mais c'est très chouette. Voilà, parce qu'on voit vraiment de plein de choses. Parce qu'en fait, à Kino, c'est que des amateurs.
D'accord.
Après il y a quelques gens qui travaillent dans le cinéma, mais sinon la grande majorité c'est des amateurs. Donc ils arrivent, ils n'ont pas forcément le bon matos. Ils savent pas cadrer ou des choses comme ça, mais après Kino, ça permet aussi de rencontrer des gens qui savent un peu plus parce qu'ils ont fait des études dans le cinéma ou parce qu'ils sont professionnels. Et on mélange tout ça et on apprend et on développe ses compétences. Donc voilà, on voit plein de films de très variés. Enfin voilà, raclette, comédie musicale. On peut en voir des vertes et des pas mûres. Mais comme ça, c'est chouette. On voit de tout.
Et donc sur ce genre d'événement. Vous avez combien de temps à peu près pour réaliser ? C'est-à-dire que ça dure, je sais pas, une semaine, un mois, deux jours ?
Bah, pour Kino Session à Bordeaux, c'est 2 mois et demi.
Ok.
Voilà, donc ça laisse le temps, parce qu'en général, on tourne les week-ends. Parce que bon, voilà, les gens ont un vrai travail, des études, donc on tourne le week-end. Donc oui, il faut du temps. Et ouais, non, c'est ça, c'est deux mois et demi. Donc il y a la session où on élit, on vote pour le thème et la contrainte de la prochaine session. Et après, on laisse une semaine. Et après, c'est le kino dating. Donc, les gens ont une semaine pour réfléchir à une idée de film. Et puis après, une fois que le kino dating est passé, on a 2 mois et demi pour réaliser son court-métrage. Et après, c'est la session. Et après, le kino dating. Et voilà, okay, comme d'accord. Ça.
Tous les 2 mois, en fait. C'est le rituel. Donc, tu as tourné tous les 2 mois dans un film ?
Non, j'étais fatiguée. Voilà, il fallait aussi que je développe mes projets perso. Donc, non, j'ai mis le holà. Non, mais oui, en général, j'ai participé à toutes les sessions d'une manière ou d'une autre.
Et donc, tu as fait comédienne au début. Est-ce oui. que tu as participé à d'autres postes dans la production d'un court-métrage ?
Oui, alors là, c'était plus récent, parce que donc, je viens de m'installer à Paris. Voilà, ça fait un mois et demi maintenant. Et donc, il y a des kinos aussi à Paris. Et donc, il y a aussi un mini cabaret, ça s'appelait comme ça. Mais ça, c'est un autre chose. Je ne sais pas si je dois en parler des cabarets. C'est un autre
on en
événement.
On parlera après, t'inquiète.
Et bref, et donc, c'était sur un week-end. Et donc, j'ai participé à ça, donc, au départ en tant que comédienne. Puis au final, comme on était lancé dans le court-métrage et qu'on était 5 pour faire un film, c'est-à-dire les acteurs, le réalisateur. Donc, on devait faire aussi technicien. Donc, j'ai fait preneuse de son... J'ai fait script, j'ai fait plein de trucs. Et donc, c'était cool. C'était cool d'apprendre plein de choses comme ça. Bon, c'était un peu sur le tas. Je suis pas sûre d'avoir été très bonne preneuse de son. Pas la technique, mais ma foi, le résultat est pas si mauvais.
En fait,
mauvais.
Tu t'essayes et c'est le principal, je pense.
Mais oui. Et puis, les gens étaient hyper bienveillants parce qu'au final, ils avaient besoin de techniciens et on n'en avait pas sous la main. Donc, les comédiens ont fait technicien. J'ai fait coiffeuse, maquilleuse aussi.
Voilà. C'est quoi ton poste préféré ?
En vrai, bon, comédienne, c'est fun. Bon, dans tous les cas, comédienne, c'est fun. Mais ce qui était rigolo dans le preneur de son, c'est que, enfin, c'était pas le plus fun, vraiment, mais c'est on sent qu'on a une importance. C'est ouais. important, ce qu'on fait. Le son, c'est hyper important dans un film. C'est, on croit que c'est l'image, mais en fait, c'est le son qui est hyper important. Et donc là, on se sent hyper, hyper important. On a la pression, une responsabilité. Et c'est plutôt enrichissant. On se dit, c'est moi qui ai fait ça.
T'as participé... à une grande œuvre.
Voilà, bon, voilà, ça va rester dans les sphères d'Internet, tout ça. Ça va pas aller en festival, mais c'est déjà cool.
Oh, non, mais c'est cool. Et du coup, quand vous faites les sessions où vous partagez vos films, est-ce qu'après, vous faites une sorte de débrief pour dire, genre, ah, ça aurait pu s'améliorer, etc. Comme ça, genre, tous les gens se disent, essaye de step up le game.
Yeah. Non. Enfin, ça, je pense que c'était une idée qu'on voulait mettre en place à Kino Session à Bordeaux, mais après, c'est trop compliqué. Enfin, parce qu'il y a, comme je vous l'ai dit, il y a 15-20 courts-métrages à chaque fois, donc à peu près 15-20 réalisateurs. C'est très compliqué de tous les avoir sous la main et de débriefer chaque court-métrage. Donc, bon, après, les réalisateurs qui sont assez ouverts, ils viennent de même dire un petit peu les difficultés qu'ils ont eues durant le tournage. Et voilà, après, les bénévoles de Kino Session sont là aussi pour les aider. Enfin, par exemple, à Bordeaux, on a un pôle nounou. Voilà,
trop
qui
bien.
Est la nounou des réals. C'est-à-dire que si jamais il y en a un qui a absolument besoin, je ne sais pas, d'un costume de cosmonaute, il va envoyer un message au pôle nounou pour dire « À l'aide, je ne trouve pas de costume de cosmonaute. Est-ce que vous en avez sous la main ?» Oui, oui, on a ça. Blablabla. Et
trop
on les
bien.
Aide. Enfin, voilà, s'ils ont besoin d'acteurs, s'ils ont besoin de matos, hop, on les aide là-dessus.
Et toi, est-ce que tu as pris part à l'organisation dans l'association ?
Oui, oui. C'était cet été. Donc, ils préparaient le Kino Cabaret. Ça y est, on va
voilà.
pouvoir en parler. Quelle transition. Et donc, oui, cet été, donc, toujours mes copines. Heureusement qu'elles sont là. Hein. j'avais une copine qui faisait son stage. Voilà, avec des gens qui étaient bénévoles à Kino et qui préparaient donc le Kino Cabaret de Bordeaux, Kino Cabaret International de Bordeaux, devrais-je dire.
Oh, ok.
Voilà, non, attention. Et donc, qui était en septembre-octobre. Et donc, pendant l'été, c'était le moment de la préparation, donc il fallait des renforts. Donc, moi, j'étais plutôt en com. Voilà. Donc, j'ai participé vraiment. Bon, je connaissais Kino Session, voilà, avec ma petite expérience comédienne de temps en temps, tout ça, enfin, de loin. Et puis, ben voilà, j'ai appris à mieux connaître l'association, les gens qui travaillaient, et que c'était une organisation hyper lourde. Enfin, on ne se rend pas compte, mais il y avait énormément de bénévoles. Excusez-moi, je vais tousser un petit peu.
Pas de soucis. N'hésite pas à prendre une gorgée d'eau, si tu veux.
Merci, désolée, je suis un petit peu malade. Donc, la voix de canard, ce n'est pas l'effet Kino. Hein.
sur le chat, il y a Diane qui demande s'il y en a partout en France des kinos.
Ah oui, ben, j'ai ma petite liste.
Ah, t'as ta liste.
Mais oui, c'est ça, j'avais fait une petite anti-sèche. Bon, elle n'est pas exhaustive, mais je sais qu'il y a Kino Caen, à Caen donc. Il y a Kino Session à Bordeaux, Kino Belleville et Kino Pop Paname à Paris. Les Kinoctambules à Saint-Etienne, Kino Fada à Marseille, Kino Gap à Gap, Kino Jean à Nogent-le-Rotrou, Kino Montpellier, Partout. Kino Porquerolles, Château Kino à Château-Gontier et Kino Moutarde
à
Dijon. Voilà, et je pense qu'il y en a d'autres, mais bon.
En
après,
gros,
il faut chercher.
Se renseigner dans votre maison des associations, de manière générale.
C'est ça.
Je pense que vous allez trouver s'il y en a une près de chez vous.
Mm-mm.
Mais déjà, vous avez une belle liste. Donc, si vous cherchez Kino et le nom de votre ville, peut-être que vous allez trouver.
Voilà, c'est ça. Il y en a
et,
partout.
Et Diane, elle demande aussi dans quoi tu travailles à la base ?
À la base, je travaille dans la culture. Là, je m'occupe d'ateliers d'artistes, voilà, en administration et en communication, mais pas du tout dans le ciné. Enfin, j'ai jamais fait d'études dans le ciné, à part en seconde.
Voilà,
l'option
donc,
cinéma audiovisuel, ouais. Mais sinon, c'est
pareil.
Tout. Voilà.
Donc, encore une fois, pas de prérequis pour participer au Kino. C'est vraiment, tu viens avec tes deux jambes et tes bras et tu fais « Est-ce que je peux aider ?» Et voilà.
Voilà, c'est ça. C'est ça, parce qu'il y a besoin d'aide pour plein de trucs. Enfin, des fois, des gens demandent juste des régisseurs pour les aider à faire à manger pour tous les acteurs. À préparer un petit peu un tournage quand même.
Et puis je pense que c'est intéressant pour toutes les personnes qui sont en études ou en tout cas au lycée et qui se demandent ce qu'ils veulent faire après. Peut-être, si le cinéma vous intéresse, allez faire un tour dans une asso comme ça et vous allez découvrir... T'inquiète. <Ouais. rire> Vous allez découvrir en fait l'envers du décor, à quoi ça ressemble. Et en fait, même si c'est amateur, vous allez voir à quoi ressemblent les postes. Et ça peut être chouette.
Parce que moi, il y avait plein de choses que je connaissais pas du tout.
Par exemple, script, qu'est-ce que c'est ?
Un script, alors c'est pas le travail le plus intéressant. Désolée pour tous les scripts. Mais en vrai, c'est hyper important aussi.
Ouais, je trouve ça passionnant, le travail de script. Je trouve ça ouf.
Mais oui, parce qu'en fait, il faut... il y a plusieurs choses. C'est qu'il faut noter absolument les plans pour après aider pour le montage, savoir les prises qui ont été bonnes ou pas. Et surtout, c'est hyper important pour les raccords. Voilà, elle doit tout noter, savoir si... Enfin, je dis elle, parce que... C'était moi, la script. Mais tout noter, faire attention aux faux raccords et des choses comme ça. Donc c'est hyper important. Il faut avoir un sens du détail et un sens de l'observation absolument fou, être rigoureux. mais c'est un travail très intéressant et très important.
Ouais, pareil, j'avais fait ça en option, en option cinéma, en seconde script. Voilà. J'étais là genre, waouh, je me rendais pas compte à quel point c'était important de faire ça.
Et oui.
Et du coup, le Kino Cabaret.
Oui, parce qu'on t'était stoppé à cause de ma toux, hein, mais c'est quand même hyper important. Donc en fait, des Kino Cabaret, c'est... Donc je vais prendre l'exemple encore de celui de Bordeaux, mais c'est à peu près la même organisation un petit peu partout. C'était 10 jours de session. Voilà, 10 jours de session, 10 jours de réalisation de court-métrage découpés en 3 sessions de 48 heures et 72 heures. Donc là, on n'a pas 2 mois et demi pour faire son film, on a 48 heures ou 72 heures. Voilà, donc c'est hyper, hyper serré comme timing et c'est hyper enrichissant. Enfin, après, moi, je l'ai fait en tant que bénévole. Parce qu'une fois que j'étais dans l'organisation pour la com, pendant le temps du festival, comme j'étais au chômage à cette époque, j'avais beaucoup de temps libre. Donc j'étais bénévole là-bas. Et on a accueilli des gens du monde entier. Enfin, littéralement du monde entier. Des Italiens, des Québécois, des Haïtiens. Quoi d'autre ? Sûrement d'autres pays, mais j'ai oublié. Mais enfin, voilà, on a accueilli des gens du monde entier qui sont venus exprès pour réaliser des courts-métrages à Bordeaux. Et découvrir les gens de Bordeaux. Donc il y avait des réalisateurs étrangers, des acteurs qui venaient de partout en France.
Oh, c'est génial.
Des techniciens. Bon, là on en manquait un petit peu des techniciens, surtout des monteurs. Donc au prochain cabaret, s'il vous plaît, un peu plus de monteurs parce qu'on en manque. Mais c'était vraiment chouette. Et donc oui, là c'est hyper intense parce que là on a 48 heures ou 72 heures pour faire son film. Et donc c'est là il y a pas de thème et pas de contrainte. C'est vraiment on part d'une idée. D'une discussion entre deux personnes, bim, allez, tiens, ça pourrait faire un bon film, allez, hop, on se lance. Donc il y a plein de films qui ont été tournés la nuit, hein, parce qu'en général, les discussions tardives, on se dit, oh là là, c'est une idée de génie, on tourne le film, le lendemain, quand on le monte, bon, on se dit que c'est pas trop ça, mais bon, c'est toujours rigolo. Et donc, après chaque session de 48 ou 72 heures, il y a aussi une projection.
Voilà. Trop cool. Et est-ce qu'il y a des gens qui font plusieurs sessions d'affilée ?
Oui, oui, oui. Bah, y en a qui font le marathon complet, qui font les 10 jours.
Okay.
Voilà.
Courage.
Oui, c'est ça.
Énormément de caféine.
C'est ça.
Pas de sommeil.
C'est ça. Que ce soit du côté bénévole ou réalisateur, on a tous terminé sur les rotules. On était tous fatigués, mais heureux, mais contents. C'était vraiment une bonne expérience de rencontrer tous ces gens du monde entier et surtout pas avec forcément le même bagage technique. Parce qu'on avait des réalisateurs qui étaient professionnels. Il y en avait qui avaient déjà fait des longs métrages ou même des courts métrages qui avaient été reconnus. Et d'autres qui étaient complètement amateurs, qui étaient venus comme ça parce que bon, ça leur disait. Des gens aussi qui n'avaient jamais été comédiens qui sont venus. Des gens qui commencent à avoir une petite carrière aussi. Enfin, ce n'est pas des stars, mais qui commencent déjà à avoir une carrière, qui sont vraiment des comédiens avec une formation de comédien. Donc, c'était vraiment hyper mélangé et les gens se mélangeaient sans aucun a priori. Enfin, voilà, on a pu tourner avec des copines dans un court métrage. D'un réalisateur italien qui a tourné avec Claudia Cardinale, par exemple.
Ah oui.
Voilà, donc...
Bon, c'est cool.
Nous, on n'est pas Claudia Cardinale, donc c'est un peu moins la classe. Mais on peut se dire, enfin voilà, on est... Tout le monde s'est mélangé, que ce soit les professionnels, les amateurs, sans aucun a priori.
Voilà. Ouais, et ça change, en fait, ça change un peu des clichés du cinéma qui est censé être un milieu ultra fermé, etc. Là, tu rencontres plein de gens qui ont fait plein de choses et...
Mais ça, c'est une porte d'entrée, enfin... Surtout les... Parce que bon, les sessions, en général, on voit toujours les mêmes personnes parce que c'est des gens qui habitent dans la ville, des gens qui sont habitués. Après, il y a des nouvelles personnes qui viennent de temps en temps, des curieux. Et en général, quand ils découvrent, ils restent. Donc en fait, on voit toujours les mêmes personnes. Mais pour les Kino Cabaret, on voit plein de gens nouveaux, quoi. C'est super, on se découvre...
Mais du coup, donc tu dis qu'il y a plein de gens qui viennent de l'étranger, donc ça veut dire que c'est une communauté internationale.
C'est ça.
Et donc est-ce que... Alors moi, il me semble que j'avais participé... un Kino Cabaret, enfin j'avais vu un Kino Cabaret en tout cas la projection de fin de 48 heures et il y avait pareil en fait des gens qui faisaient le tour des Kino Cabarets, genre ils s'étaient programmés je sais pas, il y en avait 3-4 dans le mois qui arrivaient et du coup ils avaient pris leur van et ils faisaient le tour des kinos.
Mais oui, enfin autre liste.
T'as rencontré des gens comme ça déjà?
Mais oui, parce que en fait, il y en a plein, surtout en été, qui s'enchaînent, qui sont à peu près les uns après les autres. Donc, au lieu de faire des vacances tranquilles sur la plage, ils décident de faire des vacances Kino Cabaret et de faire plein de Kino Cabaret à la suite. Donc, il faut être vraiment motivé, avoir plein d'idées. Ouais. Mais non, c'est chouette. Il y en a vraiment partout. Enfin, je sais pas, c'est, j'ai fait une petite liste. Bon, encore une fois, elle n'est pas exhaustive. Hein, il va falloir chercher sur Google pour le reste. Mais là, il y en a un bientôt à Paris. Il y a le Kino Cabaret de Belleville,
okay.
qui est du 13 au 20 mai. Voilà.
Ok, je note.
Mais alors celui-là, je pense que les quotas d'inscription, parce que bon, il y a forcément un nombre de participants limite.
Ouais.
Je crois qu'elle est atteinte. Je ne suis pas sûre. Vraiment, vérifiez si vous voulez.
Ça vaut le coup d'aller voir même la projection une fois que ça sera fini.
Oui, c'est ça. Bon, là, pareil, ça fonctionne aussi en 3 sessions de 48 okay. et 2 de 72 heures, je crois. Donc, va y avoir 3 projections. Donc, pour les plus curieux, allez voir un petit peu ce qui se fait à Paris. Ensuite, il y en a... donc, je ne peux pas demander votre aide parce qu'aucune n'a fait allemand. Leipzig.
Leipzig.
Non,
Leipzig.
Moi,
je ne sais pas. Vraiment, je... Voilà.
Ne nous en tenez pas rigueur.
Voilà, exactement. J'ai fait espagnol, donc vraiment. Et ça, c'est du 15 au 21 mai. Et après, il y a la Belgique à Liège, le 21-27 mai. Ensuite, il y a Madrid, du 25 au 28 mai. Enfin, vraiment, on peut se faire un petit...
Il y en a partout, en fait.
Est-ce que tu as déjà essayé de faire un cabaret un peu à l'étranger et d'aller tester... de communiquer par exemple en Allemagne, au hasard, en Allemagne, va communiquer avec des gens à qui tu parles pas leur langue et tu dois faire un film avec eux, quoi.
Bah après, il y a l'anglais.
Ouais.
Parce que même là, enfin, au Kino Cabaret à Bordeaux, le réalisateur italien ne parlait pas français. Mmh. Donc on a dû parler avec lui en anglais. Bon, après, c'était québécois, ça allait. Ça allait. Il y avait aussi un Allemand ou un Autrichien. Donc là aussi, pareil, on parlait en anglais avec lui. Enfin bon, au final, quand on parle anglais, ça va. Il faut.
Ok.
Et après, comme on parle tous un anglais à peu près approximatif.
Langue des signes.
Voilà, langue des signes.
Tu mimes des trucs.
Voilà, exactement. Ça marche comme ça.
Ah, c'est trop cool. En tout cas, les gens ont l'air très intéressés sur le chat.
Ah, mais ça, c'est cool. Je suis contente.
Ils sont très contents.
Si ça peut faire naître des vocations, j'en sais rien.
C'est très cool. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Est-ce que tu peux nous raconter, par exemple, ta meilleure expérience de kino?
La meilleure...
Ton meilleur souvenir, ouais, de film...
Ah, alors, est-ce que je peux en dire deux?
Oui.
Parce qu'il y en a une, c'était la première, c'est quand j'ai fait Zombie. J'étais hyper excitée. Voilà, je me suis levée, il fallait être à 7h30, je crois, chez une copine pour se faire maquiller. Et j'étais excitée, j'étais folle. Et pour moi, je voyais tous les gens avec les caméras, éclairage, tout ça. Et j'étais complètement émerveillée. C'est la première fois que je voyais un tournage. Un vrai de vrai, pas celui que j'avais fait au lycée en option cinéma audiovisuel. Là, il y avait vraiment du matériel et tout ça, c'était vraiment très chouette. Donc j'étais émerveillée, je posais des questions à tout le monde, les comédiens, les personnages principaux. « Ah, mais tu as fait quoi dans la vie? Est-ce que tu es vraiment comédien ?» Et donc il y en avait une, je crois, qui était assistante auxiliaire de vie, je crois. Enfin, bref, et là, elle était comédienne, personnage principal du film. Enfin, c'était fou.
Ouais.
Donc j'étais complètement émerveillée. Après, il y avait d'autres expériences cool et il y avait aussi, enfin, ce qui était marrant, c'est que j'ai fait voix off aussi. Bon, là, on dirait pas que j'ai du voix off material dans la voix parce que je suis malade, mais en vrai, c'était cool. Donc, j'ai doublé des gobelets.
D'accord. Aussi. Génial.
Voilà. Et donc, il fallait que je fasse un gobelet nymphomane.
Très
Donc, ça, c'était très chouette aussi de faire un gobelet nymphomane. Devant ben, plein de gens, parce qu'on avait fait vraiment une cabine son en carton, ouais. littéralement en carton, en boîte comme ça, avec un vrai ingé son pour le coup, qui n'était pas en carton, qui était plutôt très doué. Merci Boris, je ne sais pas s'il verra ça, mais il était très doué. Et donc voilà, cabine son en carton, et je devais faire des petits gémissements de gobelets, voilà. Donc ça, c'était aussi une bonne expérience parce que je ne voyais personne, je faisais mon truc, on me disait « bon, elle a dit cette phrase, et puis après, fait deux, trois gémissements ». Ok, je fais mon truc et je passe la tête. Pardon, je passe la tête. Et là, je vois tout le monde mort de rire parce que je ne les voyais pas. Donc ça, c'était très, très drôle. Et après, donc, le film a été forcément projeté. Et donc, tout le monde a rigolé. C'était très drôle.
Il y a Mickaël sur le chat qui demande s'il y a des acteurs ou actrices connus qui ont débuté dans des kinos. Tu sais pas.
Ah, non, j'en sais rien.
Écoute. C'était au cas où tu avais une info.
Non, pas du tout. Peut-être Catherine Deneuve, je sais pas. Non, c'était pas créé à cette époque. Non. Ça fait que ça a été créé ouais, dans les années. En 99. Donc ça fait pas.
Ça fait pas si longtemps.
Ça fait pas si longtemps.
Okay.
Voilà. Catherine Deneuve, non, mais peut-être.
Peut-être d'autres gens, on ira se renseigner après coup. Écoutez, je mettrai des informations si j'en trouve demain dans l'article de Mademoiselle en replay en disant « Alors, les personnes qui ont débuté dans le kino, personne ?» ou des gens. Je ne sais pas. On verra si je trouve.
Mais après, peut-être des réals. Enfin, bon, après, peut-être qu'ils ne sont pas forcément connus. Mais en tout cas, qui sont après professionnalisés ou qui ont participé à des festivals ou des choses comme ça. Oui, ça ne m'étonnerait pas. Voilà, au niveau des réalisateurs. Parce que c'est arrivé qu'il y ait des courts-métrages qui étaient réalisés lors de Kino Cabaret, qui ont fini dans des festivals professionnels, avec des prix et tout. Mmh.
Trop bien. Enfin, c'est cool. Voilà. J'aime bien la frontière en fait, qui est un peu floue entre le milieu amateur et le milieu pro, c'est chouette.
C'est ça, parce que ben, justement, c'est une frontière qui est très floue. Et, enfin, voilà, on peut parler avec des grands réalisateurs sans s'en rendre compte. Quoi. Mmh. Les grands réalisateurs de demain.
Voilà. Peut-être que ton rôle de gobelet va te valoir un César dans quelques années.
Mais peut-être, je croise les doigts.
Bah, en tout cas, merci. C'était notre première partie. Et on se retrouve après la pause musicale avec Amélie. Ouh, et donc, j'ai spoilé un peu tout à l'heure, elle va nous parler de bêtes. Mais attention, c'est une grande passion et ça va être très cool. On a plein de choses à dire. À tout de suite. Oh là là.
Drowning in the sand.
C'était donc Charlotte Savary avec A Movie. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, le chat a bien aimé. Nous sommes donc de retour dans C'est ça qu'on aime. On vient de parler de Kino avec Morgane, qui est une lectrice de Mademoiselle, qui est venue la semaine passée nous amener des cookies. Et on a parlé de ça. Et du coup, j'ai dit, mais viens, viens dans C'est ça qu'on aime. C'est très chouette. Et donc, si vous avez loupé ça, écoutez, il y aura un replay à la fin de la diffusion de ce live et éventuellement un podcast demain. Voilà, comme ça, vous n'avez pas loupé. Vous inquiétez pas. Tout va bien si vous arrivez maintenant et que vous venez juste de finir de manger. On va passer à la passion.
La suspense.
À la passion.
Alors, je ne vois pas.
D'Amélie.
Oui.
Oui.
Ouh, ah, ouh. Atmosphère.
Ouh. Ouh là là. Oui. De quoi tu veux nous parler ce soir, Amélie?
Je vais vous parler de grosses bêtes à poil.
Ouh.
Ça devient intense. Hein.
Alors, toutes les personnes qui n'aiment pas les araignées de...
Non, pas du tout. Non, non, sinon je partirais aussi. Hein, bon, voilà. Non,
on va parler de cheval.
De poney, oui. D'ailleurs, pour l'occasion, j'ai mis ma plus belle chemise de cow-boy sous acide. Voilà. Voilà, oui, tout à fait, on va parler de poney, de cheval.
Trop cool. Alors toi, ouais. Tu fais de l'équitation depuis quand?
Depuis que j'ai 6 ans. Je suis okay, très mauvaise en calcul mental, mais je vais avoir 25 ans. Voilà, ça fait un petit bout de temps maintenant. Ouais, depuis que j'ai 6 ans, j'ai jamais arrêté. Jamais.
Okay. Never. Waouh. Alors, ouais. Ça a été quoi le... Est-ce que ça a été un coup de foudre déjà?
Alors, ben, j'ai commencé à 6 ans parce qu'on ne pouvait pas, à l'époque, commencer plus tôt. Et je tannais mes parents, je veux faire du poney, je veux faire du poney. Et donc, il y avait l'âge limite, il fallait avoir 6 ans. Et donc, à 6 ans pile, j'étais sur mon petit poney poilu, enfin bon, bref. Et ouais, tout de suite, ça a été un peu le truc, ouais. Et j'en ai jamais décroché, en fait.
T'étais déjà passionnée par les chevaux, en fait?
Bah, je sais, enfin, je m'en rappelle plus trop, mais parce que moi, j'étais petite à l'époque, mais c'est vrai que j'ai toujours eu envie de faire du poney. Voilà, j'ai fait pas mal de sport, j'ai fait de la danse classique, ça m'a absolument pas plu, j'ai fait de la piscine, ça m'a pas plu non plus, mais le cheval, c'est toujours resté constant, en fait. C'est vraiment le truc, je me suis dit, non, le cheval, j'arrêterai jamais, et encore maintenant, c'est un peu limite la priorité de ma vie avant tout. Si je peux pas faire de cheval, ça va pas. Donc ouais, c'est un peu un truc, je pense que quand tu t'accroches, t'as du mal à en démordre, c'est vrai que c'est un peu addictif.
Alors, il y a un cliché assez récurrent.
Il y a beaucoup de clichés assez récurrents,
en vrai. C'est vrai qu'il y a des clichés pas mal en rapport avec l'équitation, mais il y en a un que moi, j'ai, en ayant grandi en campagne, mon père trouvait que c'était un sport de riche.
Exactement. Et donc...
Et du coup, alors j'ai essayé une fois de faire du cheval, j'ai eu très peur parce que je ne contrôlais pas la bête et du coup ça me faisait flipper, du coup j'en ai fait qu'une fois.
Et c'est ça, en général les gens soit ils en font une fois, ils ont très peur, soit ils en font une fois, ils aiment bien et ça passe. C'est voilà, c'est un peu le crash test de la première fois où bon, ça passe ou ça casse, tu vois. Mais alors oui, donc c'est un vrai, vrai cliché.
Voilà. Que j'aimerais démonter ce soir.
Exactement. Hein, voilà. Et moi, c'est un peu mon cheval de bataille. Oh, voilà, de tous les jours. En fait, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais donc j'ai un magazine équestre en ligne
qui s'appelle
georgettemag.com. Et donc, c'est un petit peu vraiment la chose qu'on essaye de démontrer, enfin, comment dire, de casser cette image vraiment tout le temps parce que. En vrai, on a l'image, donc oui, de la nana très bien fringuée sur son poney, tout à fait lustrée de la tête aux pieds, nanana, qui coûte très très cher. En vrai, faire du cheval, on passe plus de temps les pieds dans la crotte, concrètement, que de se lisser les cheveux, quoi, en vrai. Non, mais c'est vrai. Donc, bien sûr, c'est un sport qui coûte de l'argent, mais un peu comme tous les sports, quand on commence à le faire en compétition. Après, ça s'est quand même beaucoup, beaucoup démocratisé. Prendre des cours dans un centre équestre, plus ou moins régulièrement, c'est pas hors de prix comparé à un autre sport comme, je sais pas, le tennis ou quoi que ce soit. Après, c'est vrai qu'il y a pas mal de matériel à acheter, qui sont du matériel cher, parce que c'est du cuir, des choses assez... qui restent, quoi. Bon, on dit toujours, quand on achète, par exemple, une selle qui coûte très très cher, ça dure toute la vie, ce qui est vrai. Mais bon, voilà. Enfin, bon, bref. Mais c'est vrai que c'est pas un sport qui coûte rien. Mais après, comme je pense tous les sports,
il faut que t'investisses dans l'équipement.
C'est ça. Voilà. Après, l'image qu'on a vraiment du cavalier, provincial... bourgeois, etc. En vrai, c'est tellement pas ça. Vraiment, les centres équestres, c'est pas toujours glamour. Enfin, moi, j'ai toujours monté en province. Donc, dans les grandes villes, je suis un petit peu moins au courant de comment ça se passe. Mais en province, en tout cas, c'est pas comme ça, quoi. Enfin, honnêtement, voilà. Enfin, l'amour de l'animal et l'amour du sport, etc., passe toujours avant, enfin on essaye en tout cas que ça passe avant les apparences, et c'est ce que les gens de l'extérieur oublient un petit peu, parce que c'est vrai qu'on a ce côté un peu prout-prout, mais c'est pas ça, quoi. C'est plus prout-prout dans le vrai sens du terme que prout-prout comme on peut l'imaginer, quoi. Le seul moment où vraiment on peut dire qu'on est bien habillé, c'est quand on fait des concours où là on a un espèce de dress code où on est obligé de porter une veste, de porter un pantalon blanc, de porter des bottes, de porter un polo où on a le petit col blanc ou une cravate ou ce genre de truc. Ouais. Ça reste un peu le folklore, un truc qui est gardé dans l'équitation, et en même temps c'est rigolo aussi, voilà. Mais après, en vrai, non. Le cheval, c'est pas trop. Enfin, c'est pas vraiment comme on l'imagine dans la vraie vie.
Et donc
vraiment
toi,
pas. Non.
Donc toi, t'as commencé quand t'étais petite. T'habitais pas en région parisienne, je
Alors,
suppose.
Alors à l'époque là, à cette époque, si justement, si. J'habitais en région parisienne. Ouais. Si. Et j'ai commencé dans un petit centre équestre dans les Yvelines, qui était très très cool. Mais après, j'ai vite déménagé du coup en Lorraine. La Diagonale, okay. Et du coup après j'ai toujours monté en Lorraine, ouais, de centre équestre, cool, sympa, enfin, ouais.
Et donc, à chaque fois que tu arrives dans un centre équestre,
ouais.
Est-ce que tu as un cheval attitré ou...
Non.
Tu changes à chaque fois que tu viens.
Alors, c'est la tristesse de tous les cavaliers quand ils arrivent et qu'ils doivent changer à chaque fois, parce qu'en général, t'as un préféré quand même, t'as le feeling qui passe avec un cheval plus ou moins, en général, c'est comme ça que ça se passe. Et non, en fait, si on veut apprendre à monter, il faut...
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Il faut savoir monter tous les chevaux, en fait, parce qu'ils ont vraiment leur caractère. C'est pas comme on peut imaginer de l'extérieur, encore une fois, une mobilette sur laquelle on pose les fesses et on appuie sur le bouton galop, pas, on s'arrête, machin. Non, c'est vraiment chaque cheval, c'est comme un chien ou un animal ou même un humain. Enfin, je veux dire, on est tous des animaux. Et je veux dire, et tout le monde, chacun est différent et y en a qu'on aime, y en a qu'on n'aime pas. Et du coup, il faut apprendre, entre guillemets, à savoir tous les monter.
À faire avec,
voilà,
quoi.
À faire avec. Et du coup, on a souvent ce qu'on appelle un montoir, où en fait, quand t'arrives, il y a ton nom, enfin le nom de tous les gens qui montent dans ta reprise qui sont sur la feuille, avec le cheval attitré. Et donc, voilà. Moi, c'était mon grand stress quand j'étais petite. J'avais vraiment genre la boule au ventre, mais 2 heures avant, dans la voiture, quand même m'amener et tout, parce que je voulais absolument pas monter tel cheval ou tel cheval, ce qui me faisait super peur. Et que, voilà. Alors bon, après, les moniteurs savent en général quel cheval t'aimes ou pas, et donc ils en jouent un peu quand ils savent que bon voilà, t'as fait un effort la séance d'avant, ils te remettent le cheval que t'aimes bien quand voilà, enfin bon, c'est vrai que mais ouais, dans la logique, il faut savoir, un vrai bon cavalier, on dit qu'il peut monter sur n'importe quel cheval. Donc non, mais on n'a pas de cheval attitré, sauf si après on devient propriétaire, donc on achète son propre cheval. Et là, dans la logique, on monte toujours le même.
Oui,
voilà.
Forcément. Ouais. Et du coup, le rapport au cheval, t'en parles. Enfin, c'est vraiment un truc de caractère.
Ouais. Bah, en fait, comme je disais, les chevaux. Enfin, pour les gens qui n'y connaissent rien, pourraient se dire, ils sont à peu près tous pareils. Ils ont à peu près tous le même caractère. Quand on sait que comment il faut faire pour partir au galop, comment on fait pour s'arrêter, etc. C'est pareil pour tous.
Ouais.
Donc c'est vrai qu'on a tous les mêmes codes. Il faut faire la même chose pour partir au galop. Il faut faire la même chose pour s'arrêter. Voilà. Mais chacun a sa manière de réagir, même sa façon d'être. En fait, la relation avec le cheval, c'est vraiment assez particulier. En fait, enfin, c'est comme une relation avec un animal avec lequel on passe beaucoup de temps, comme par exemple le chien, c'est une relation très très forte. Mais il y a un petit truc en plus, dans le sens où, on effectue en plus des choses avec lui, et où vraiment il faut qu'on soit en connivence, entre guillemets, parfaite avec lui, et où il faut vraiment être... lié, en fait. C'est un peu cette espèce d'image de quand on est à cheval, on fait qu'un, un peu. Alors c'est un peu cucu de dire ça, on dirait un petit peu un téléfilm M6, oui, voilà. Mais c'est vraiment ça, en fait. Enfin, il faut vraiment apprendre à faire qu'un avec son cheval, et du coup c'est vraiment un sentiment hyper fort, et je pense que qui est vraiment difficile à retrouver dans une autre une autre sphère, un autre sport ou je sais pas, mais c'est vraiment se remettre en question assez, tout le temps en fait, vraiment travailler sur soi, travailler, enfin t'as toujours des doutes, est-ce que j'ai mal fait, parce que mon cheval me comprend pas, etc. C'est toujours une espèce de relation, mais un peu comme un couple en fait, où faut tout le temps que tu te remettes
que
en question.
L'autre peut pas parler quoi, il peut pas t'expliquer ce qu'il
non
va pas.
mais c'est vrai que du coup
oui, c'est ça, s'il est pas d'accord,
c'est ça, mais c'est pour ça qu'en fait il faut tout le temps être à l'écoute et c'est vraiment un espèce de quand ça marche en fait, quand vraiment t'arrives au but que tu voulais faire, c'est-à-dire je sais pas n'importe quoi, sauter telle hauteur d'obstacle ou même il y en a qui font des spectacles ou ce genre de trucs, enfin bon bref, et quand tu y arrives vraiment c'est une satisfaction mais genre immense parce que toi t'as réussi mais et lui a réussi mais en fait c'est pas ça, vous avez réussi tous les deux et ça c'est vraiment un sentiment hyper fort que tu peux avoir avec d'autres animaux, mais il y a un truc en plus vraiment où là enfin faut vraiment faire équipe faire qu'un, enfin tu te sens un peu comme c'est un peu l'image du centaure quoi, où vraiment le cheval devient tes jambes et en fait tu penses et il y a vraiment
il
un truc qui
truc,
se passe
c'est
quoi.
Fou ça, moi je trouve ça ouf de réussir à faire
c'est assez difficile à expliquer en fait ce truc se passe pas avec tous les chevaux en fait, c'est pour ça que on aime certains chevaux et d'autres non, mais eux c'est pareil, ils aiment certains cavaliers et d'autres pas, c'est pas que dans un sens sinon on ne les aime pas, eux aussi peuvent ne pas nous aimer et on ressent assez vite en fait les chevaux qui aiment tel cavalier ou même un cheval de club qui voit passer des centaines de cavaliers sur son dos par semaine, ils reconnaissent, enfin c'est voilà, on a beau dire c'est des animaux mais c'est comme nous, ils reconnaissent les lieux, ils reconnaissent les gens, il suffit que la personne les ait montés une ou deux fois, il va s'en rappeler et c'est pareil que nous quoi, vraiment il y a des cavaliers qu'il va pas aimer et qui va bien faire comprendre qu'il aime pas et voilà, c'est et du coup c'est vrai que une fois que t'as trouvé vraiment une vraie connivence avec un cheval et que tu sais comment lui parler et que lui il sait comment réagir, c'est un truc de fou vraiment et c'est assez précieux en fait quand t'arrives à trouver ça, c'est vraiment un sentiment assez fou vraiment voilà.
Et
sortez le violon.
Tout à l'heure, donc tu disais que tu as déménagé en Lorraine. Oui. Maintenant, tu habites à Paris.
Alors, j'habite à Paris, mais mes chevaux sont toujours en Lorraine chez mes parents. Donc,
et
ils sont toujours à cheval en Lorraine.
Okay. Est-ce que du coup, tu as plusieurs fois changé de club ou de
Pas tant
ou de centre équestre ?
Pas tant que ça. J'ai commencé en région parisienne dans un centre équestre qui s'appelait La Cavale à Breuil-en-Vexin. D'ailleurs, c'était très très cool là-bas et j'ai dû partir donc parce qu'on a déménagé. Et donc après, j'ai monté pendant un petit temps en Champagne-Ardenne, au centre équestre de Saint-Dizier. On y est resté un bon moment. Je me suis fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amis et ça m'a fait beaucoup, beaucoup grandir à l'époque. Enfin, j'étais ado et c'était vraiment une grosse phase dans ma vie. Et là, on a rechangé. Donc non, en fait, j'ai fait que 3 centres équestres dans toute ma vie.
Ouais.
Et là, en fait, c'est un petit peu plus particulier parce que maintenant, ma mère et moi, on est propriétaires de 3 chevaux. Et du coup, on monte un petit peu toute seule. Donc moi, chez moi, il y a un champ, etc. Du coup, les chevaux sont avec des box et une carrière. Et du coup, je monte chez moi, en fait. Donc de temps en temps, on va au club, mais en général, on fait un petit peu ça dans notre coin avec ma mère, c'est cool.
Parce que justement, le fait de pas être propriétaire, je pense qu'au début, quand t'étais pas proprio et que tu... t'es obligé de changer de cheval et parfois de changer de ville où tu laisses un cheval que t'aimais
trop
fort.
Les déchirements de ma vie, vraiment. Mais vraiment, non, mais en vrai, c'est pire que quand un mec te largue ou je sais pas, vraiment, en vrai. C'est, Et encore maintenant, genre j'ai du mal à en parler et ça, voilà. Ouais, il y avait un poney que j'adorais, mais vraiment, quand j'étais petite, je devais avoir 13 ans, un truc comme ça, et il s'appelait Quick, voilà. Le gérant du centre équestre l'a vendu, enfin bon, et j'ai jamais su où il partait, et je ne l'ai plus jamais revu, et j'en ai pleuré, mais toutes les larmes de mon corps pendant des années et des années, vraiment. Et encore maintenant, je fais encore des recherches, je lance encore des appels en détresse. Oh, si vous avez vu un poney. Donc voilà, d'ailleurs, j'en profite. Si vous avez vu un poney, avec des taches, pibet, qui s'appelle Quick, avec un K, qui a été pendant un petit moment donc en Champagne-Ardenne, dans le 52, pitié, appelez-moi, vraiment, ça me fait vraiment plaisir.
Et s'il nous écoute d'ailleurs, qu'il n'hésite pas à mettre vraiment un petit message.
Non, c'est vraiment un peu un traumatisme. Et après, quand on a rechangé, pareil, un autre poney qui s'appelait Neptune, d'ailleurs, c'était le nom de mon premier Skyblog, Neptune08. Bref, et voilà, et pareil, redéchirement. Non, c'est vrai que c'est difficile, hein.
Non mais en fait, ce qui m'interpelle et ce que je trouve intéressant, c'est que Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a un espèce de truc. Alors, moi, je l'ai eu quand j'étais ado. De les meufs qui faisaient du cheval, pour moi, c'était genre, bah, en fait, t'es folle d'un animal et je ne comprends pas pourquoi. Et en fait, regarde, toi, avec ton chien ou ton chat, comment tu es. Globalement, c'est la même chose.
Ouais. Ah, mais c'est clair.
Et
c'est
du coup, je trouve ça assez intéressant que, enfin, qu'on fasse, enfin, je pense que c'est important surtout de faire ce parallèle-là. Parce que pour s'il y a des jeunes filles qui nous regardent et qui, comme moi à l'époque, jugeaient, parce que voilà, j'ai fait cette chose-là, c'est très mal. mais du coup, ouais, je trouve que c'est un parallèle intéressant de se dire, bah, en fait, ouais, un cheval, c'est un animal. Comme un animal de compagnie, sauf que bon, clairement, il reste pas chez toi sur ton canapé.
C'est ça.
Donc
c'est ça.
Du coup, bah en fait, tu crées des liens avec et notamment sur ce que tu dis, le fameux centaure, où bah en fait,
c'est une vraie relation que tu as avec nous.
C'est
ça.
En vrai, c'est pas une relation que tu as avec ton chien ou ton chat. On est d'accord.
Non, c'est pas la même. C'est pas mieux ou c'est pas moins bien.
Avec ton chien, je sais pas.
C'est ça.
Non, mais c'est juste, voilà, c'est juste, je voulais juste. Ouais. Lancer ça, ouais. Écoutez. Oui.
Non, mais que, je peux comprendre, ça... on ne juge pas.
voilà, mais... non, mais je trouve ça, en fait, je trouve ça vraiment intéressant, ce truc de. Bah ouais, en fait, t'es passionnée d'équitation parce qu'il y a un truc fort avec les animaux et comme tu peux avoir un truc fort avec ton chien, ton chat ou, je sais pas, ton furet, voilà.
Exactement.
Et du coup, donc, on t'en parlait tout à l'heure, t'as lancé ton propre magazine.
Exactement.
Qui s'appelle
Georgette Mag. Alors, les gens souvent me demandent, mais pourquoi Georgette Mag? C'est un prénom. Alors, les gens m'appellent Georgette aussi, des fois. Salut Georgette, oui, non, bonjour, en rendez-vous pro, bonjour Georgette, non, c'est non, Amélie, non. Bon, presque. Parce qu'en fait, donc, la Georgette, pour ceux qui ne savent pas, c'est un terme équestre qui se dit dans le saut d'obstacle, et c'est donc en fait quand tu précèdes ton cheval, parce qu'en fait le cheval saute, et donc toi t'es censé accompagner avec lui. Mais il se peut que des fois tu sois pas bien réveillé et donc il se passe une espèce de couille dans le pâté que le cheval saute et toi après ou tu sautes avant le cheval. Et donc quand tu sautes avant le cheval, c'est-à-dire que tu arrives devant là-bas, tu te lances et non, le cheval fait ça et saute. Donc tu te prends un gros coup de sel dans les fesses, ça s'appelle faire une Georgette.
D'accord.
Voilà, c'est pour ça. Voilà, donc je trouvais ça marrant avec le parallèle, avec tous les noms de magazines en et, voilà, du coup, voilà. Georgette Mag, oui, georgettemag.com que j'ai lancé, du coup, il y a officiellement un petit peu plus d'un an. Alors avant, j'avais un blog, et donc ça a changé de nom il y a un petit peu plus d'un an pour que ça fasse plus magazine, parce que c'est en fait ce que c'est, avec des rubriques, etc.
Mais enfin, moi, je... Ça parle de quoi, Georgette? Vas-y, dis-nous. Qu'est-ce qu'on peut retrouver comme article?
Ben, c'est vraiment, il y a vraiment tout. Enfin, ça englobe un petit peu la thématique. Donc, il y a tout ce qui est conseil. Il y a des interviews de gens, de cavaliers, de pros ou pas même. Il y a des conseils au niveau du matériel, du test de matériel. Il y a des vidéos, c'est un petit peu ce qui est mis en avant. En fait, la chaîne YouTube marche pas mal, avec pareil des tests de produits, des vidéos un peu marrantes, genre conseils, etc. Il y a vraiment un petit peu de tout, des news un peu marrantes, un peu what the fuck. Enfin, moi, j'essaye un petit peu en fait, de me démarquer de ce qui se fait déjà, qui est très sportif ou très conseil pro dans le cheval, les soins, les choses comme ça, où moi, j'ai pas la prétention de me dire que. Enfin, je m'y connais pas, donc voilà. De faire vraiment quelque chose d'assez décalé et qui pour le coup essaye de parler à tous les cavaliers et pas seulement les cavaliers qui sont très 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 sportifs ou qui mettent beaucoup d'argent là-dedans parce qu'il y en a quand même qui le font et c'est très bien pour eux, mais voilà, vraiment parler à tous les cavaliers de tout niveau et leur parler de la manière dont moi personnellement j'aurais eu envie qu'on me parle à ce moment-là. Voilà.
Oui, peut-être une manière peut-être moins prétentieuse,
voilà, c'est
d'aborder
ça.
Le cheval, parce que ça peut faire un peu peur, moi personnellement.
Ah oui, mais tout à fait.
L'équitation, ça m'a fait toujours très peur. J'avais l'impression que pour le coup, c'était un cercle fermé.
Ouais.
Pareil, j'ai beaucoup jugé. On est toutes un peu comme ça, c'est une période.
Ça arrive, après on grandit.
Tout ça, ça me faisait un petit peu peur et je me demandais qui étaient les gens qui faisaient
du
cheval. Tout ça,
ça
était très étrange pour moi. Donc,
mais c'est vrai que là, ça s'est beaucoup démocratisé, mais ces dernières années, en pas tant de temps que ça en fait. Je sais que moi, quand je suis arrivée, que j'avais lancé mon blog, on devait être une petite dizaine à avoir des blogs. Maintenant, ça explose. Il y a des nouveaux sites et blogs et webzines tous les jours limite et qui essayent un petit peu de se mettre dans cette veine-là. là. Du coup, c'est super cool, en fait, parce que vraiment, on montre une autre image de l'équitation qui est celle qu'elle est vraiment en ce moment et qui, je pense, rebutera moins les gens si on la montre vraiment dans toute sa pluralité. Voilà. Et du coup, ouais, c'est vraiment ce que j'essaye de faire avec le magazine, de parler à tous les cavaliers de manière détendue, quoi. On se prend pas la tête, on parle de chevaux, c'est cool. Voilà, avec des articles de fond, des trucs plus lol, enfin bon, bref, voilà.
Faites des let's play de Alexandra Lederman ou...
Eh ben, j'ai fait un let's play des Sims spécial animaux avec la création de cheval. Ouais, j'ai fait ça.
C'est bien, ça.
Mais c'est
pour tous les gamers qui nous écoutent, il y a ce qu'il faut sur Georgette.
C'est ça. Ouais, mais du coup, avec pas mal de vidéos. Enfin, je sais ce qui marche pas mal, la chaîne YouTube, du coup. C'est un peu notre truc phare.
Votre fer de lance.
Voilà, c'est ça.
Et du coup, je voulais parler un peu de l'aspect compétition du cheval.
Ouais.
Est-ce que toi, t'en fais ?
Oui, tout à fait.
Depuis longtemps aussi ou...
J'ai dû faire ma première compète. Je devais avoir un petit peu plus de 10 ans, un truc comme ça.
Ok, parce qu'en fait, je me demande... Comment ça se passe ? Alors moi, je suis vraiment genre newbie.
Ouais.
Comment ça se passe quand tu vas dans ton centre équestre, que tu dis « j'arrive, je veux faire du cheval », tu fais quoi ? Et est-ce que la suite logique, c'est de faire de la compétition ou tu peux juste continuer à monter tranquille ton cheval et à faire des balades en forêt, j'en sais rien.
Bah, en fait, ça dépend pas mal...
Est-ce que c'est un cliché, peut-être ?
Ouais. Non, mais ça dépend pas mal du club, en fait, dans lequel tu souhaites monter, parce qu'il y a des clubs qui sont très compétition, vraiment. Et où tu sens quand même que c'est bien de faire de la compète, quoi, voilà. Et d'autres où pas du tout. Après, il y a vraiment plusieurs équitations, en fait. T'as vraiment l'équitation sportive, mais et celle qui est vraiment plus tournée sur le cheval, vraiment la relation, etc. Ce qui, l'un n'exclut pas l'autre. Hein. Je veux dire, on peut tout à fait faire de la compétition et s'intéresser à l'éthologie ou ce genre de choses. Mais ça dépend un petit peu de la structure, en fait. Après, je sais qu'il y a des gens qui adorent monter à cheval, faire du saut d'obstacle, par exemple, mais qui détestent faire de la compétition parce que c'est pas mal stressant quand même comme expérience, et du coup qui choisissent de monter, de monter de manière sportive, mais pas forcément de faire de la compétition. Après, moi, c'est vrai que j'aime quand même cette dimension sportive où vraiment tu te dépasses, où faut que t'as toujours une espèce de petite appréhension qu'il faut que tu dépasses tout le temps. Enfin, c'est voilà. Mais après, je pense que c'est vraiment comme on veut. Après, si tu choisis de faire de la compétition, en général, faut quand même que t'aies un niveau, un petit niveau. Et puis après, ça commence. Enfin, quand tu commences en club, t'as toutes les catégories. Ça commence, tu sautes 60 cm, c'est tout petit. Donc il y en a vraiment pour tous les niveaux. Donc c'est cool. Et puis après, mais c'est assez stressant quand même comme expérience les concours, parce que tu te retrouves tout seul, en fait, avec ton poney. T'es plus en reprise avec ton moniteur. En fait, tu te retrouves tout seul devant les juges et vas-y. Vas-y, déroule, fais ton truc, ok, allez. Et c'est un peu, vraiment, c'est stressant. Quand t'es petit et même quand tu grandis, c'est stressant, vraiment. Oui, c'est vraiment l'impression que tu te jettes dans le vide un peu. Ouais, vraiment. Mais c'est cool, c'est vraiment cool comme sensation. Et encore une fois, t'es tout seul, mais t'es pas vraiment tout seul parce que t'as ton cheval.
Ton
quoi.
Cheval.
Ouais, non, mais c'est vrai.
Faut
supporter mutuellement et tout.
Allez, go. Tous les deux motivés pour la victoire.
Mais moi, je sais que je fais de l'obstacle, donc c'est plusieurs obstacles à sauter. Donc on appelle ça faire un tour, en fait. Et donc au milieu de mon tour, souvent je parle à mon cheval. Enfin, il y a des moniteurs qui aiment pas trop qu'on parle à son cheval, d'autres si, mais moi je m'en fiche. Moi je parle tout le temps à mon cheval, genre vraiment. Vraiment, ça fait un peu peur, quoi. Des fois, je me mets la GoPro et du coup, je m'entends. Je suis là, oh là là. Alors, attention, on y va. Mais je pense que je parle au cheval, mais je pense que je me parle plus à moi, en fait.
Ouais, tu te rassures toi-même.
Allez, ça va, allez, il en reste plus qu'un, c'est bon. Ouais, bravo. Ok, allez, ouais. Mais ouais, c'est quand même assez stressant, mais c'est grisant comme sensation quand même, parce que quand tu réussis, t'as l'impression vraiment d'avoir finaliser un truc, quoi. Enfin, moi, je sais que je marche quand même pas mal à l'objectif, surtout dans l'équitation, et que vraiment, quand tu te fixes des objectifs en début de saison et qu'ils sont atteints, c'est fou, quoi. Franchement, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool.
Il y a Diane sur le chat qui demande comment ça se passe, l'ambiance entre les cavaliers.
Alors, ça dépend. Franchement, Ouais, c'est vrai que souvent, il y a quand même pas mal de petits trucs. Mais en fait, c'est vrai que c'est un milieu quand même où on se retrouve toujours un peu entre nous et on sait comment c'est. Regardez, non, regardez pas, mais les anges ou ce genre de trucs, quand on ferme plusieurs personnes dans un même milieu, dans un même lieu, au bout d'un moment, il y a des frictions, c'est normal. Voilà. Et donc, bah, forcément, enfin... comme dans n'importe quel milieu, t'as toujours les histoires de mon cheval, il est comme ci, mon cheval, il est comme ça, parce que voilà, on met quand même plusieurs personnes du même âge, au même, enfin, qui ont quand même la même passion, les mêmes envies, dans une petite sphère, et du coup, bah forcément, des fois, ça fait des frictions. Mais honnêtement, moi, j'ai eu j'ai rencontré pas mal de mes meilleurs amis au cheval, et je veux dire, et voilà, enfin, c'est un peu une famille en fait, en vrai, mais ça dépend. Franchement, ça dépend. Vraiment, ça dépend du centre équestre, ça dépend des personnes, ça dépend de l'âge aussi. Enfin, voilà. Enfin, je veux dire, quand on a 16 ans, qu'on est des gamines comme ça, qu'on n'est pas trop bien dans notre peau, etc., qu'on est toutes des hérissons un peu comme ça, forcément, ça se passe mal. Mais je pense que c'est pareil dans tous les sports. En vrai. Donc voilà.
Je pense que c'est pareil dans tous les sports et ouais, dans toutes ça. Les associations
c'est
et tout comme ça.
Exactement. Ouais.
Au bout d'un moment, voilà, les rapports humains font que on ne s'entend pas toujours avec la personne en face.
C'est ça. Mais après, je veux dire que ouais, quand on grandit, tout se passe très bien. Oui. Et ouais, moi, j'ai rencontré vraiment de très très belles personnes dans mes centres équestres, etc. Et ça se passe très bien, quoi. Quand on agit en adulte, etc. Ça se passe bien. Et de toute façon, on a toute la même passion, donc il y a pas de raison que ça se passe mal. Voilà.
Et est-ce que tu as un souvenir particulier qui t'a marqué ou plusieurs, hein, n'hésite pas s'il y en a plusieurs.
Bah, j'ai un petit truc drôle. Il y a quoi, 3 ans, je partais en concours justement. Alors souvent, ce qu'il faut savoir, c'est quand on part en concours, on se lève très très tôt. Donc là, en l'occurrence, ça devait être 4h30 du matin, un truc comme ça. Bref, donc me voilà à 4h30 du matin en train de préparer ma jument pour partir en concours. Voilà, bref, je prépare tout, je commence à la prendre pour la monter dans le vent. Et là, la magnifique idée, c'est que c'est une brute, vraiment, c'est une brute, c'est un éléphant, ma jument, de me marcher dessus. Donc elle m'a marché sur le pied, sauf que les chevaux font en moyenne 500 kilos, donc elle avait des fers, etc. Donc elle m'a cassé le pied, mais vraiment littéralement cassé le pied. Voilà, donc super, avant de partir en concours, ma mère, assis-toi, j'étais à 2 doigts de tomber dans les pommes avec la jument comme ça, dans la nuit à 4h du matin, enfin bon bref, voilà. Donc il était hors de question d'y aller, non si je veux y aller, on y est allé. J'ai fait mon parcours, j'ai fait sans faute en montant avec un seul pied, parce que j'avais le pied littéralement cassé, voilà. Et donc, pour me rappeler de cette petite histoire, un an après, je me suis fait tatouer un fer à cheval sur ce pied-là. Voilà. Donc j'ai un tatouage de fer à cheval sur ce pied droit que ma jument a cassé. Voilà, pour m'en rappeler toujours, voilà, je me suis fait tatouer le fer à cheval.
La petite douleur.
Bisous Mirabel, hein. Super.
Voilà. Merci. Et du coup, en parlant de ta jument, comment ça se passe pour devenir propriétaire et à quel moment tu t'es dit que tu allais acheter ton propre cheval?
Alors, il n'y a pas vraiment d'âge pour acheter son cheval. Tout dépend un peu de sa maturité ou de son niveau ou de ce qu'on a envie de faire, de son entourage, enfin vraiment de plein de choses. Moi, je sais que j'ai eu envie d'avoir mon propre cheval quand j'ai eu le niveau suffisant pour me dire que je peux m'occuper de mon propre cheval, que les chevaux, n'importe lesquels, ne me font plus peur et que, justement, j'en ai un petit peu marre de pas avoir le temps et de pas pouvoir développer vraiment cette relation, parce que les chevaux de club, bien sûr, on développe une relation, mais ils sont montés par d'autres personnes, ils peuvent s'en aller, enfin il y a quand même ce petit truc qui fait qu'on peut pas non plus être à 100% tout le temps. Et donc vraiment là, j'avais ressenti ce besoin de me dire et j'aimerais vraiment construire une relation de A à Z, et donc voilà. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir avoir donc ma ponette. Donc on dit une ponette quand c'est la femelle, enfin la femelle du poney, ça se dit vraiment une ponette. Les gens se moquent en général, ils disent c'est ma ponette, ça se dit.
Mais
ça,
oui, oui.
Oui, voilà, donc ma ponette, je devais avoir 16-17 ans, et voilà, et en fait ça s'est fait un peu comme ça. En fait, c'est une jument du centre équestre que j'aimais beaucoup, et un jour, j'ai un peu tanné mes parents. Coucou, est-ce qu'on peut avoir un deuxième cheval? Parce que ma mère avait déjà un cheval. Oui, oui, si on veut pas entendre parler, on payera rien, d'accord, ok. Bon, et du coup, je me suis débrouillée. Et du coup, je l'ai acheté, donc la jument du club, la jument du club après, parce que j'en étais un petit peu tombée amoureuse, en fait, à l'époque-là.
C'est marrant, parce que j'allais justement te demander comment ça se fait qu'il y a des chevaux qui partent des clubs ? Est-ce que c'est bah, genre des trucs économiques ou quoi ?
Souvent, souvent, c'est parce que bah, ça se passe un peu comme ça. Un cavalier du club va tomber amoureux du cheval et va l'acheter. Ouais. Après, ça peut être que le cheval convient pas au centre équestre parce que, je sais pas, il est peut-être trop compliqué ou pas assez compliqué ou il convient pas. Donc, les clubs peuvent le vendre à un autre club. En général, ouais. Ça se passe comme ça. Soit il part dans un autre club, soit il part chez un propriétaire. Ça se passe souvent comme ça.
Et il y a Mickaël qui demande si tu as monté autre chose que des poneys.
Alors, moi, je suis très poney parce que je suis petite. Là, ça se voit pas trop. Je fais 1m58. Et donc, après, c'est vrai que je monte aussi à cheval. Mais je suis plus à l'aise sur les poneys. Après, attention, quand on entend poney, on voit le petit truc de même pas un mètre, poilu, voilà. Un poney, en vrai, c'est 1m51 ferré, la taille maximale. Donc, c'est quand même pas tout petit. Et donc, quand je disais ma ponette, elle fait 1m48, donc elle n'est pas toute petite.
Ouais.
Et moi, j'aime bien les poneys. Voilà, c'est mon côté.
Alors, 1m48, c'est le dos ou c'est...
C'est le garrot. Alors, en fait, c'est, tu vois, tu as la tête, ensuite, ouais. Tu as le cou, on appelle ça l'encolure. Et donc, après, tu as un point qui est fait comme une espèce de petite montagne sur le dos. On appelle ça le garrot. Et en fait, on mesure là à chaque fois.
Ok.
Voilà. Oui, le garrot.
Donc, je me disais, en effet, 1m48, si tu prends la hauteur de la tête du cheval, c'est un peu petit.
Mais je monte à cheval aussi, mais c'est vraiment une question de goût, quoi. Et j'ai toujours, j'ai ma ponette qui maintenant est vieille, que je monte plus, et donc je me suis racheté un poney cet été, qui est un poney, voilà. Et on est les seuls en concours à être à poney. Parce qu'on est
je pensais que c'était que sur des chevaux, les
compétitions. En fait, non, t'as vraiment tous les niveaux, mais c'est vrai que du coup, moi, maintenant, je suis passée, en fait, à plusieurs niveaux. T'as club, amateur et après pro. Donc moi là je suis en amateur et c'est vrai qu'en amateur il y a assez peu de poneys. Du coup on est les plus petits, à chaque fois tout le monde nous regarde, genre ils font faire l'épreuve là, oui. Voilà, du coup, mais il y a des poneys qui sautent aussi bien que des chevaux et qui ont les mêmes capacités physiques que des chevaux, quoi. Donc voilà, moi je suis plus team poney, mais j'aime beaucoup les chevaux aussi, c'est différent, voilà.
Et il y a Raphaël qui demande comment ça t'est venu l'idée de te concentrer sur les chevaux pour faire un magazine.
Alors,
c'est
moi,
la passion
toujours,
qui parle.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Ben en fait, pour tout dire, j'ai bossé à Mademoiselle et donc le fait d'écrire beaucoup, etc. Ça m'a déclenché un truc. Je me suis dit, mais en fait, dans le cheval, il y a pas en fait ce côté. Enfin, moi personnellement, je me retrouvais pas dans tout ce qui se faisait déjà au niveau des magazines, au niveau du web, etc. Je m'y retrouvais pas trop. Du coup, je me suis dit, mais c'est dommage, en fait, je trouve qu'on parle pas assez vraiment aux cavaliers jeunes qui sont sur Internet, qui utilisent maintenant d'autres moyens de communication. Et je me suis dit, mais c'est con, en fait. Et vraiment, mon taf à Mademoiselle m'a vraiment, entre guillemets, ouvert les yeux et ça m'a vraiment débloqué un truc. Et j'ai été encouragée, du coup, à ouvrir du coup, le blog à côté. Et donc, pendant un moment, je bossais sur le blog en même temps de bosser à Mademoiselle. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, il y a un truc à faire parce que ça a pas mal pris dès le début. Et après, du coup, je me suis lancée. Et quand je suis passée freelance, j'ai décidé de développer ça parce que vraiment, je trouvais qu'il manquait quelque chose. Et du coup, voilà. Et c'est vrai, le cheval, parce que c'est ma passion et que je pense que qu'on travaille toujours, enfin qu'on parle toujours mieux de ce qu'on aime en fait, et qu'il faut toujours parler de ce qu'on aime. Et c'est ce qu'on fait le mieux. Donc voilà, je me suis dit why not le cheval. Voilà.
Et du coup, est-ce que tu arrives à te rémunérer un peu avec ce magazine ?
Alors, moi, en fait, je suis journaliste freelance, donc je bosse pour Mademoiselle. Je bosse aussi pour Equidia, qui est donc la chaîne du cheval. Après, je bosse pour plein d'autres petits clients. Mais ça commence, en fait. Moi, en vrai, à terme, j'aimerais vivre que de ça. Vraiment, développer que le magazine. Le problème, c'est qu'au niveau investisseur, c'est encore pas... en fait, le cheval, c'est encore un milieu assez fermé à ce niveau-là, au niveau des grandes marques, ce genre de trucs. Ils sont quand même encore très classiques dans leur façon de communiquer, hein, c'est vrai.
Ils sont pas encore sur l'Internet.
Non, pas trop. Enfin, de plus en plus, hein, de plus en plus. Moi, j'ai vu, là, en quelques années, vraiment, les marques s'y mettent et c'est trop bien. Mais voilà, ça commence, quoi. Et pour l'instant, en fait, j'ai comme pas mal de gens, j'ai pas mal de propositions, d'échanges d'articles, ce genre de choses, mais voilà, j'ai encore un peu de mal à démarcher vraiment des clients qui veulent bien payer. Il y a beaucoup de gens qui viennent me dire « Bonjour, on a un super événement, vous voulez pas faire un super article sur nous ? Voilà, pile dans votre ligne édito, ok ?» Je lui dis « Super, je vous fais un devis. »« Ah non, mais on voudrait que ce soit gratuit. »« Bah non, les gars, moi je bosse là, en fait. Ouais. Comment vous dire ? C'est mon travail. » Donc voilà. Mais donc, un petit peu, en fait. Pas assez pour en vivre pour l'instant que de ça. J'aimerais bien, mais pour l'instant pas assez. Mais un petit peu, de plus en plus en fait. Donc c'est cool. Ouais, c'est cool.
Ouais, ouais, t'es après, la seule rédactrice de Georgette
Ben, en fait, non. Enfin, je suis la principale. C'est moi qui écris le plus d'articles. Mais en fait, justement, non. J'ai ouvert une espèce de... Enfin non, c'est ouvert à tous, je veux dire. Il y a plein de rédactrices bénévoles qui participent plus ou moins régulièrement, en fait, qui ont leur petite rubrique ou ce genre de choses. Après, c'est tout à fait comme les gens veulent, en fait, étant donné que c'est bénévole, donc vraiment, ils participent de la manière dont ils veulent, comme ils veulent. Mais ouais, non, du coup, je suis pas la seule. Et c'est vrai que de plus en plus, je suis contente parce que moi, l'idée, c'est pas que ce soit que moi qui écrive, parce que parler à tout le monde... Je pense que tout le monde...
Il faut varier.
Voilà, il faut varier, exactement. Du coup, moi, j'ai envie que... Oui, il y a des domaines dans lesquels je ne me sens pas forcément légitime ou même, ma façon d'écrire ne peut pas forcément plaire à tout le monde ou je ne sais pas. Voilà. Moi, je pense que plus il y a de contenu, mieux c'est. Donc non, c'est un peu ouvert à tous et je reçois pas mal de demandes de participation. Je reçois aussi beaucoup de demandes de stage, mais bon, c'est un peu compliqué dans mon appartement, venez. Mais non, du coup, ouais, c'est pas, il y a pas que moi qui écris. D'ailleurs, même pour les vidéos, j'aimerais bien que lancer quelques rubriques où on pourrait voir d'autres têtes. Mais voilà, ouais, non, l'idée, ça serait quand même que ça grossisse à terme et qu'on puisse parler à encore plus de cavaliers, dans le sens où des cavaliers qui parlent à des cavaliers, plus il y en a, mieux c'est, quoi. Donc voilà, ouais.
Mais trop cool.
Je suis contente, ouais, parce que ça marche plutôt bien, donc c'est bien. J'ai plutôt de bons retours, etc., donc c'est cool.
Il y a une dernière question.
Oui.
Il y a Karen qui demande comment s'appellent tes chevaux.
Alors...
Je tiens
à dire que en général, alors à part si tu as fait naître ton cheval, tu ne choisis pas son prénom. Voilà, c'est le naisseur, enfin l'éleveur ou le naisseur qui choisit, parce qu'en fait, tu as une lettre par année. C'est un peu comme les chiens, voilà, de race. Et donc voilà, moi ça va, je m'en sors pas trop mal. Donc ma ponette s'appelle Mirabelle, voilà.
La fameuse.
C'est ça. Mon cheval s'appelle Rock et mon poney s'appelle Tivoli, voilà. Mais il y en a, ils sont pas gâtés. Genre en concours, j'en croisais une qui s'appelait Quiche, genre comme une quiche. Vraiment, comment tu peux appeler ton cheval Quiche, quoi. Bref, voilà. Donc non, ça va, je m'en sors pas trop mal.
Est-ce qu'il y a des éleveurs qui font des blagues exprès en se disant on va donner les pires noms?
Je sais pas, mais je pense qu'il y en a qui s'amusent à faire ce genre de truc parce que vraiment, des fois, tu vois des choses sur les terrains de concours, tu te dis mais c'est pas possible, mon Dieu. Voilà. Mais et les chevaux ont souvent un espèce de nom de famille en fait parce que derrière tu rajoutes le nom de l'élevage, c'est un petit peu comme les chiens aussi.
Ouais.
Et voilà. Et mon cheval, c'est drôle parce qu'il s'appelle Rock of Gibraltar.
Oh.
C'est la classe.
Waouh.
Voilà. Pas mal. C'est un épouse,
ouais.
Hein. Ouais. C'est clair. Tout de suite, tu mets un truc genre de quelque chose ou.
C'est ça. C'est ça.
Ça, on jette direct.
Mais après, ça fout un peu la pression, tu vois. T'arrives, Rock of Gibraltar, allez, fais tomber la première barre. Super. C'est fait. Enfin, je vais me cacher. Bref. Mais ouais, voilà.
Ok, bah trop cool. Merci à toutes les deux d'être venues. C'était
de rien,
très chouette.
C'est cool.
J'espère que ça vous a plu. J'espère que à vous qui nous écoutez, qui nous avez suivis, j'ai un bug. Nous écoutez, j'espère que ça vous a plu aussi. Tous les liens pour l'Equino et le Georgette Mag et tout ça, promis, ça sera dans l'article de Mademoiselle dédié à ce podcast, donc qui sera en ligne demain, je pense. Les prochains podcasts de Mademoiselle, c'est le 25, donc mardi prochain. On va parler de produire un film indépendant de A à Z, comme quoi tout se regroupe. On va recevoir l'équipe du film Ace, H-E-I-S, qui est un film d'Anaïs Volpé qu'on a eu en interview chez Mademoiselle il n'y a pas très longtemps, que Clémence a eu en interview. Et en fait, on s'est dit, mais venez raconter votre histoire parce que vous avez produit un film indépendant vraiment de A à Z, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de distributeur, pas de producteur derrière, ils ont tout fait eux-mêmes. Donc ils ont tous eu, pareil, comme au Kino Cabaret, plusieurs postes et ils ont fait de la post-prod, ils ont fait la distrib eux-mêmes, etc. Donc du coup, je pense que ça va être très intéressant. Si ça vous intéresse, rejoignez-nous le 25 à 21h. Voilà.
J'y serai.
Écoute.
Non, pas là, plaisir. Mais derrière.
Et puis, on se quitte. Alors, qu'est-ce que j'ai choisi comme session? Le bâton rouge de... J'ai oublié leur nom. Alors, je vais mettre le début et puis on va voir qu'est-ce que c'est leur nom. C'est Palatine. Voilà. Bonne soirée.
Bonne soirée.
Watch them bones, the remains will. Of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.